Comment trouver des clients? Comment bien gérer sa facturation? Ces réponses et bien plus sont dans le podcast des indépendants sur BFM Business. Et j'oubliais, quelle banque choisir quand on devient freelance, auto-entrepreneur ou indépendant? Une vraie banque digitale avec des conseillers experts basés en France. Une banque avec des tarifs compétitifs qui propose toutes les solutions pour développer votre activité. Une banque avec 90% de clients satisfaits. C'est Hello Bank Pro. Hello Bank Pro, partenaire du podcast des indépendants. À tout de suite.
BFM Business, 500 millions d'Européens, avec Euranet Plus. Yann Anthony Noguès.
Bonjour à tous et bienvenue à Bruxelles pour ce nouveau numéro de 500 millions d'Européens. Un constat quasi unanime, en tout cas partagé par tout le monde à peu près ici à Bruxelles. L'Union monétaire ne dispose pas pour l'instant de quoi faire jouer des stabilisateurs et amortir des chocs, encore moins d'assurer la convergence de ses membres. D'où cette question, faut-il doter la zone euro de son propre budget? Bonjour Pervenche Pérez.
Bonjour.
Eurodéputée socialiste française. Et puis même, elle a du galon, hein, chef de file des eurodéputés socialistes français ici. Vous êtes co-rapporteur sur cette question au Parlement européen. C'est dans les tiroirs ici à Bruxelles depuis quelques temps. Il y avait eu le rapport des 5 présidents de toutes les institutions européennes qui avaient parlé de ça. Et là, la Commission en avait parlé, mais le Parlement européen vient de se saisir de la question. Enfin, vous travaillez dessus depuis quoi, un an ?
Non, 6 mois.
6 mois.
C'est la première fois qu'il y aura un rapport spécifique sur la question d'un budget pour la zone euro.
Un budget pour la zone euro. Voilà la question que l'on se pose aujourd'hui. Et vous avez coécrit ce rapport avec un Allemand, Reimer Böge. Vous êtes une socialiste française. Lui, c'est un conservateur allemand. Quand vous faites un rapport à 4 mains, on va voir ce que ça donne.
Normalement, si on se met d'accord, c'est pas mal.
Ouais, ça peut être pas mal. Jean-Sébastien Lefebvre de Context est avec nous. Un budget pour la zone euro, c'est une bonne idée?
Si on veut une zone euro viable sur le long terme, ça sera nécessaire à un moment donné. On ne peut pas continuer sans. La prochaine crise risque de montrer qu'il y a des défaillances et qu'il y a besoin de stabilisateurs.
Jean Quatremer, bonjour.
Bonjour.
Libération, coulisses de Bruxelles. Quoi d'autre ? Stop, j'arrête là. Est-ce que je ne donne pas toutes vos collaborations de cumulard ? Un budget pour la zone euro, c'est une bonne idée pour vous ?
Oui, c'est une idée nécessaire, mais c'est pas la seule nécessité pour la zone euro. Moi, je pense que même avant le budget de la zone euro, il faut d'abord la démocratiser. C'est une nécessité absolue. Parce que même si vous me faites un budget pour la zone euro, il y a déjà un budget pour l'Union européenne, mais on a le sentiment, déjà, les citoyens de plus en plus se détachent de l'Union européenne parce qu'ils ont le sentiment de ne pas contrôler ce qui se décide à Bruxelles. Donc vous faites un beau budget de la zone euro, mais si vous continuez à avoir un eurogroupe et une commission qui décide selon des procédures obscures et sans contrôle démocratique, eh bien ça ne va pas sauver la zone euro.
Charles de Marcy est avec nous également. Bonjour Charles.
Bonjour.
De la Fondation Robert Schuman. Un budget de la zone euro, pour vous c'est une bonne idée, même si pour Jean apparemment c'est pas la priorité?
C'est politiquement souhaitable, difficilement faisable, sachant qu'on est quand même à mi-chemin, parce qu'on a par exemple centralisé l'approche monétaire avec la Banque Centrale Européenne, mais on a des budgets morcelés, puisque chaque État a le sien, et un tout petit budget européen. Donc oui, un jour on y arrivera, la question c'est quand.
Mais la question c'est qu'un budget pour la zone euro, ça servirait à quoi? A priori, on a déjà un budget pour l'Union Européenne, Charles vient de le dire, ça représente un petit pourcent du PIB européen, c'est quoi? C'est 150, 160 milliards d'euros par an. Alors, faut-il doter la zone euro de son propre budget? C'est Pervenche Bérès qui s'est saisi de cette question au Parlement européen. Et Pervenche Bérès est notre invité. Demandez le programme de 500 millions d'Européens pour réagir. Hashtag 500ME. Alors, j'avais amorcé cette question, Pervenche Bérès. Quand on met un Allemand conservateur et une Française socialiste dans la même salle, ça donne quoi, vous pensiez, parce que la question, ce budget...
Vous êtes
sortie vivante.
On compte les points.
Ça donne quoi? Parce que pour la gauche, parce qu'on financerait quoi avec un budget comme ça? Apparemment, pour la gauche, on parlait d'une assurance chômage européenne qui pourrait permettre de gommer les différences structurelles et donc d'amortir les chocs. Est-ce que ça, c'était votre idée?
Alors, d'abord, pourquoi est-ce que j'ai pensé que c'était utile de faire ce rapport avec un chrétien démocrate allemand? Parce que quand même,
Moi, déjà, vous êtes forte parce qu'en gros, c'est vous qui avez décidé de le faire. C'est vous qui avez tendu la main au...
C'est plus compliqué que ça. Enfin, disons que ça fait depuis le premier jour, je crois, où je suis dans ce Parlement, je m'occupe de ces questions-là. Ouais. Et donc, je continue mon petit bonhomme de chemin. Ouais. Et là, l'étape qui est devant nous, c'est quelque chose auquel on pensait depuis le début, mais où maintenant, les esprits commencent visiblement à être un peu prêts, à se dire, ben, c'est peut-être la pièce manquante pour que, enfin, l'euro fonctionne réellement. Et puis, le Brexit, par là-dessus aussi, oblige vraiment à poser la question. Non, j'ai voulu faire ça avec un chrétien démocrate allemand, je pensais que c'était une très bonne idée, parce que je suis pas une grande fan de la grande coalition, c'est bien connu, mais en même temps, sur ce sujet-là, si on arrive à se mettre d'accord, on fera avancer la question. À quoi ça sert? Avec Reimer Böge, on est d'accord pour dire que ça doit servir à trois choses. D'abord, la convergence entre les économies de l'Union européenne, de la zone euro. Pour l'instant, c'est incroyable. Vous savez, en allant vers l'euro, toutes les économies ont convergé. Tout le monde a essayé d'aller vers le même objectif. Et à partir du moment où les pays ont été membres de la zone euro, ils ont divergé. Donc c'est pas soutenable. Deuxième raison pour laquelle on veut un budget de la zone euro, c'est que s'il y a un choc dans un pays, comme ce pays ne peut plus jouer de ses taux de change pour ajuster la situation de son économie, eh ben, il est à sec. Et donc, il faut qu'il y ait un mécanisme qui lui permette d'ajuster ce choc qu'on appelle...
Le mécanisme européen de stabilité, le MES, il sert à quoi?
Il sert à ça. Ouais. Mais il a servi à ça sur une petite partie, dans une situation d'urgence. Mmh. Et il ne permet pas d'amortir un choc asymétrique. Et c'est là où vient votre idée d'une assurance chômage. Quand un pays...
C'est pas mon idée, c'est l'idée que j'ai évoquée.
C'est l'idée que vous avez évoquée, à juste titre, parce que c'est une des très bonnes solutions pour amortir ce choc asymétrique. D'accord. Et puis, il y a l'idée de savoir qu'est-ce qu'on fait quand
C'est quoi l'idée? Donc, on mutualise l'assurance chômage ou une partie de l'assurance chômage? Comment ça fonctionne?
Toutes les options sont sur la table, mais pour l'instant, mais il y a d'autres options aussi. Il y a ce qu'on appelle, en mauvais bruxellois, Rainy Day Fund, qui est l'idée que... Un rainy day fund, c'est l'autre.
Calme-toi. C'est de l'anglais.
Ah, c'est de l'anglais. Ah, je me demandais quelle était cette langue étrange. Vous savez, ils partent, les anglais, c'est fini.
Ça, c'est le FMI. C'est le FMI qui pensait à ça.
Non, mais c'est les deux options qui sont sur la table et sur lequel entre
rainy day fund, rainy, c'est le fond pour un jour pluvieux. Voilà. C'est quand ça va mal.
Merci. Voilà.
C'est pour quand ça va mal.
Mais à Bruxelles, il pleut tous les jours. Oui, ils arrivent tout le temps. C'est plutôt malin.
Et alors?
Non, mais l'idée, c'est quand un pays va mal, est-ce qu'on l'aide ou est-ce qu'on a un mécanisme quasi automatique, ce qui est le cas avec une indemnité chômage. L'indemnité chômage, c'est lorsque vous atteignez un certain niveau de chômage, eh bien, partie ou totalité ou une grande ou une petite partie de cette indemnité chômage serait mutualisée et donc l'Union européenne viendrait...
Mais il y aurait une conditionnalité, c'est-à-dire que...
Jean-Sébastien Lefebvre.
Est-ce que pour qu'il puisse toucher cet argent, l'État en question devrait en plus assouplir, je sais pas, son code du travail, comme c'est souvent le cas...
Oui, une sorte d'harmonisation.
C'est la différence entre les deux systèmes. Si vous avez un rainy day fund, c'est-à-dire qu'il reste un pouvoir d'opportunité pour juger est-ce que vous allez mal, est-ce que vous allez suffisamment mal et est-ce qu'on peut vous donner ou est-ce qu'on doit vous donner cet argent pour vous aider. Dans le système d'une indemnité chômage minimum, c'est ce qu'on appelle un stabilisateur automatique. Vous atteignez un certain niveau et à ce moment-là, vous y avez droit. C'est pour ça que
c'est plutôt la solution sans la conditionnalité.
Vous avez bien
compris. Et les Allemands, plutôt avec la conditionnalité.
Vous avez très bien compris la situation.
C'est comme au Conseil européen.
Mais dans les deux cas, ce que nous disons tout de même, c'est que... il faut qu'en même temps qu'on mette en place ces mécanismes de solidarité, on aille vers de la convergence.
Économique
entre les économies. On ne peut pas avoir cette situation totalement explosée. Et pour ça, avec Reimer Böge, on pense que la situation actuelle où c'est la Commission qui dit à la France « faut que tu fasses ta réforme de pension » ou « réforme du marché du travail », ça ne marche pas très bien. Et on se souvient que ce qui a bien marché... c'est quand les États membres voulaient arriver à l'euro. À ce moment-là, il y avait
la carotte.
Oui, c'était la carotte.
Il n'y a plus de
carotte. Mais la carotte, maintenant, ça pourrait être la mise en place de cette indemnité chômage minimum. Et ce que nous proposons, c'est de retrouver la vertu des critères de Maastricht.
Vous me permettez d'intervenir, voyons Anthony?
Oui, Charles de Marseille. Jean 80.
Pourquoi est-ce que c'est la mutualisation, la prise en charge d'une partie de l'assurance chômage pourrait créer de la convergence? Il faut comprendre le mécanisme. En fait, l'idée, elle a été mise, elle vient pas d'Europe, elle vient des États-Unis. C'est ça qui est intéressant. C'est une idée américaine au départ. Simplement parce que ça oblige l'Allemagne à s'intéresser au taux de chômage espagnol. Parce que brutalement, quand le taux de chômage atteint 20-25%, ça leur coûte de plus en plus cher. Donc ils sont obligés de se dire, mais peut-être que ma politique économique, à moi, personnellement, elle pose un problème et que ça entraîne l'Espagne vers le gouffre. Donc actuellement, les Allemands, qui n'ont rien à faire de leurs excédents commerciaux, qui sont en train de déséquilibrer l'ensemble de la zone euro, c'est aussi grave ce qui se passe en Allemagne que ce qui s'est passé en Grèce. Hein. Faut quand même en avoir conscience. Mais on n'en parle pas parce qu'il ne faut pas parler de l'Allemagne. Ici, l'Allemagne, c'est l'éléphant au milieu de la table. On parle autour, mais on dit pas aux Allemands, actuellement, votre politique, c'est elle qui est en train de plomber l'ensemble de la zone euro. Là, ils vont être obligés de se dire, ah, peut-être que notre politique économique pose un problème, et plus, moins on s'intéresse à l'Espagne, plus ça coûte cher aux contribuables allemands. Donc, vous êtes obligés de vous intéresser à ce qui se passe chez le voisin. Et donc, vous créez cette convergence, à la fois une convergence économique et une convergence politique.
Jean, ce coup-ci,
ce coup-ci,
je vous ai pas interrompu parce que c'était intéressant.
Non, mais c'est d'autant plus important ce qu'il dit que si on regarde le fonctionnement des stabilisateurs automatiques dans la zone euro, l'espace de la zone euro à partir de 2010, le rôle des, parce que en 2010, avant 2010, on disait la zone euro va beaucoup mieux que les États-Unis parce que nous on a des stabilisateurs automatiques donc on va beaucoup mieux s'en sortir. Ouais. Et c'est pas vrai parce que à partir de 2010, on se rend compte que les stabilisateurs automatiques ne fonctionnent plus. Non seulement ils fonctionnent plus, mais ils se dégradent dans la zone euro plus que n'importe où ailleurs. Donc il faut compenser ça.
Charles de Marseille.
C'est un autre avantage, et je rebondis sur ce que vous disiez, Jean, en disant « Ah, mais le contributeur allemand pense à combien ça va lui coûter ». Et là, on ne parlerait plus du contributeur allemand, espagnol ou français, mais le contributeur européen. Et on changerait aussi la dynamique psychologique qui est derrière.
Après, ça dépend comment vous alimentez le budget.
Ah oui, ça, c'est l'autre question.
C'est les budgets nationaux.
C'est d'où ça vient. Mais l'approche déjà globale est de changer, en fait, cette vision où ça coûte plus cher aux Allemands qui sont contributeurs théoriquement nets ou aux Français ou à qui vous voulez et de dire voilà il y a le contributeur européen et donc on dénature finalement un petit peu ce lien psychologique qui est assez important.
Mais alors côté allemand et Reimer Böge qui parle pas vraiment un français excellent, donc il n'est pas autour de la table avec nous.
Si, il parle très bien français.
Ah bon, d'accord. Bon,
si on pouvait avec un buddy accent allemand. C'est ça qui vous chaîne ?
D'accord. On enlèvera cette partie. On enlèvera cette partie-là.
Par solidarité, on va le couper. Ouais.
Voilà. Ouais, par solidarité. On peut parler avec l'accent allemand.
Auf die Klappe. Alors. Pervenche Berès, parmi les autres options, donc il y a le Rainy Day Fund, il y a l'assurance chômage pan-européenne, il y a aussi l'idée d'un fonds de garantie des investissements. Reimer Böge, elle a été sur la table. Reimer Böge, lui, il expliquait que quand il était agriculteur, il y a 15 ans, il avait emprunté à des taux trois fois plus élevés pour investir dans sa ferme. Et aujourd'hui, malgré les taux très faibles, personne n'investit. C'est qu'il y a un problème. Et c'est ce budget propre de la zone euro qui pourrait changer la donne ?
En tout cas, ça doit y contribuer. Et c'est pour ça que la troisième fonction que nous voulons pour ce budget, c'est de permettre de répondre à un choc symétrique. Mmh. Quand il y a un manque d'investissement, vous savez qu'aujourd'hui, on continue à avoir un déficit d'investissement en Europe. C'est absolument incroyable. Et pour ça, dans tous les pays de la zone euro, y compris en Allemagne. Et Reimer Böge est intellectuellement très honnête. Il dit deux choses qui sont absolument...
Pour un Allemand.
C'est tous les sous-entendus
Il faut aussi... le plaisir que j'ai à travailler avec lui, c'est que justement, c'est un Européen convaincu comme moi. Il a conscience comme moi que l'euro est en danger, que la soutenabilité de l'euro, qui est vraiment la corde sur laquelle nous pouvons tirer pour continuer à pouvoir... élaborer des solutions ensemble et menacer si nous n'avons sont pas. Il dit deux choses. Il dit, moi, je regarde la situation en Allemagne. On n'est pas capable de construire une gare ou un aéroport dans des délais raisonnables. Donc, la question de l'investissement, ce n'est pas qu'un problème de fonds, de capacité de financement en Grèce. C'est aussi une capacité de mobilisation dans un pays comme l'Allemagne. Deuxième chose qu'il dit qui est très utile. Il dit, dans mon pays, on n'arrête pas de critiquer la Banque centrale en disant ces liquidités qui sont... mise sur le marché pour remettre tout le monde sous respiration artificielle, sont beaucoup critiquées en Allemagne. D'ailleurs, M. Draghi est en train d'être entendu en ce moment même au Bundestag pour s'expliquer sur cette politique. Il dit, on ne peut pas continuer à critiquer la Banque centrale et ne rien faire. Et donc, la compensation, la réponse à cette politique monétaire, c'est une relance de l'investissement. Et donc, il faut s'en donner les moyens.
Alors maintenant, la question, c'est comment ce budget propre de la zone euro serait financé. Est-ce que Bruxelles va nous inventer un nouvel impôt européen ? Bon, là, c'est juste de la provoque, hein, pour être sûr que vous restiez, malgré ce petit message publicitaire qui s'annonce. On est avec Pervenche Bérès, Jean-Sébastien Lefebvre, Jean Quatremer et Charles de Marcy. À tout de suite.
BFM Business, 500 millions d'Européens, l'émission qui va voir ailleurs. BFM Business, 500 millions d'Européens, depuis le Parlement européen à Bruxelles.
500 millions d'Européens qui pourraient bientôt avoir un budget propre pour la zone euro. En revanche, je ne me rends pas compte. La zone euro, ça, 320 millions d'Européens qui pourraient avoir un budget propre. C'est la question qu'on se pose. Est-ce que c'est opportun d'avoir un budget propre? Et est-ce qu'il y a un montant, d'ailleurs, défini? C'est la question que nous allons poser à Pervenche Bérès, eurodéputé socialiste, auteur, co-auteur du rapport avec Reimer Böge, un conservateur allemand, ce rapport sur un budget propre de la zone euro au Parlement européen. Jean-Sébastien Lefebvre de Context est avec nous, Charles de Marcy de la Fondation Robert Schuman est avec nous, Jean Quatremer de Libération est avec nous. Est-ce qu'il y a un montant déjà? Est-ce que vous êtes risqué, Pervenche Bérès, à mettre un montant?
Non.
Non. Est-ce que vous avez un chiffre en tête? Faites-vous plaisir.
Non, mais aujourd'hui, le budget de l'Union européenne, c'est 1%.
Du PIB. Des 28.
Et si pour la zone euro, on avait un peu plus, parce que dans la zone euro, il faut faire un peu plus de choses ensemble que ce qu'on fait dans l'Union européenne à 27 ou à 28, ça serait pas mal.
Donc 1% du PIB des 19.
5%, c'est totalement idéal, mais déjà, si on commence avec 1,5, on sera très content. Et ce qu'il faut savoir, c'est que...
Il y a Jean-Sébastien qui est en train de calculer là dans sa tête, mais en gros, on serait de l'ordre de 100, 120 milliards ou quelque chose comme ça. Donc vous raisonnez, vous êtes dans cette fourchette-là.
Ce qu'il faut savoir, c'est que vous avez déjà un budget, une enveloppe, qui est détenue par les seuls pays membres de la zone euro. C'est le mécanisme européen de stabilité. Et le mécanisme européen de stabilité, alors il y a plein de façons de calculer, c'est une capacité d'emprunt, donc mais c'est 600 milliards d'euros.
Entre 500 et 700, quoi.
Entre 500, ça dépend comment est-ce qu'on calcule.
Il y en a qui sont partis, il y en a qui vont venir.
Voilà, bon. Mais enfin, c'est quand même... On est déjà dans quelque chose que Jean-Claude Juncker lui-même a qualifié d'embryon du budget de la zone euro. Donc cet argent, il est là. Après, il faut savoir est-ce qu'on redéfinit son mandat, etc. Mais le problème de cet argent aujourd'hui, c'est que ça a été confié à une structure qui ne dépend pas du Parlement européen. Ni même des parlementaires européens, membres de la zone euro.
Qui est basé au Luxembourg.
Qui est basé au Luxembourg. Et qui dépend du contrôle de tous les parlements nationaux des pays membres de la zone euro. Autant dire qu'en dehors du Bundestag et parfois l'Assemblée nationale, personne ne sait ce qui s'y passe.
Et surtout le MES, il n'est pas là pour corriger les déséquilibres.
Le MES, c'est Mécanisme européen d'instabilité.
Ce sont des pompiers. C'est-à-dire que si jamais, effectivement, vous avez un problème sur la dette publique d'un pays, c'est-à-dire qu'il y avait une flambée des taux d'intérêt...
Ça a été mis en place pour s'occuper de la Grèce.
Et donc, si par exemple, je ne sais pas, en France, demain, les taux d'intérêt atteignent 5, 6, 7, 8% et que la France est étranglée, à ce moment-là, le Mécanisme européen de stabilité vient... au secours du pays qui est attaqué afin de faire baisser les taux d'intérêt de sa dette. C'est juste des pompiers. Là, ce que propose Pervenche, c'est un mécanisme qui est complètement différent. C'est-à-dire vraiment, là, c'est recréer de la convergence en temps calme, pas en période de tempête.
Jean-Sébastien.
Oui, mais parce qu'on sait qu'en temps calme, si on ne s'en occupe pas...
La crise arrive.
Et voilà.
Donc, cessons juste de travailler avec les pompiers, il nous faut des architectes.
Et c'est ça. Magnifique. Mais le problème, c'est qu'il faut revoir la structure.
Elle est facile.
De votre part, tout m'étonne.
C'est qu'il faut, pour y arriver, il faut aussi revoir la structure.
Dommage qu'on soit en direct, c'est dans vos commentaires.
Qui contrôlerait ? C'est-à-dire que ce budget, est-ce que c'est tout le Parlement européen qui pourrait voter dessus ? Ou juste les députés, y compris des membres de la zone euro ? Et est-ce que ceux dont les pays vont un jour adhérer à la zone euro peuvent déjà voter dessus, etc. Ça pose plein de problèmes. Et en fait, ça mettrait aussi, surtout, l'Union européenne devant la réalité que l'UE, dans son ensemble, restera un marché unique, mais que le cœur d'intégration du projet, et ça c'est le cas depuis 2011 quasiment, c'est la zone euro. Donc après, je ne sais pas ce que vous allez proposer sur les parlements qui votent pour ce budget, mais...
Et là, on répondrait à la première question de Jean Quatremer sur la démocratisation. Vous avez un avis, Charles de Marcy, sur la question ?
C'est légitimité démocratique, c'est fondamental, parce qu'on a le sentiment même que, par exemple, la BCE, évidemment qu'ils ont un mandat, mais que c'est complètement déconnecté d'une réalité sociale ou des citoyens. Et donc, il faut remettre à un moment une sorte de confiance, ce qui est aussi le problème qu'on a, d'ailleurs. Vous avez de l'argent, mais on n'investit pas pour être
soyons basiques.
Et sans savoir où cet argent va non plus.
Aujourd'hui, au Parlement européen, il y a les représentants des 28 États. Pourquoi est-ce qu'il n'y aurait pas des réunions des représentants des 19 États de la zone euro ici au Parlement européen pour traiter ces questions-là?
Parce qu'aujourd'hui...
Ça paraît simple comme
ça. Parce que ça paraît simple, mais aujourd'hui c'est contraire au traité. Mais moi je ne suis pas là pour savoir qu'est-ce qui est conforme au traité ou pas. Je suis là pour savoir comment est-ce qu'on fait que l'euro fonctionne. Et je suis tout à fait d'accord avec Sébastien Lefebvre pour dire qu'il y a le marché intérieur... qui continuera à exister. Et puis, il y a l'euro. Mais l'euro, il faut dire ce que c'est. L'euro, c'est un embryon d'une union politique. Et derrière ça, si on a un budget, je ne connais pas de budget sans représentation parlementaire. Et alors, les deux doivent aller de pair. Mais ceux qui aujourd'hui disent « le Parlement européen doit d'abord s'organiser et après on verra si on peut mettre en place un budget », c'est idiot.
C'est ce qu'a dit Jean Quatremer.
Non,
je ne traite pas jamais Quatremer. Mais un Parlement qui ne veut pas de budget, il ne sert à rien.
Et la réciproque est vraie. Le jour où vous avez un budget... Il s'impose que vous avez un Parlement pour contrôler ce budget. Et les choses se feront naturellement. La dernière chose que je voudrais profiter de ce moment pour clarifier les choses.
Allez-y.
Je pense que, en réalité, l'euro, aujourd'hui, est dans une situation qui a été clarifiée avec les Britanniques, puisque, en principe, ils doivent partir. Je dis bien en principe parce que, comme pour l'instant, ils n'ont toujours pas déposé leurs instruments, je ne sais pas à quoi ça va ressembler. Et puis, on a un pays qui a une dérogation, l'autre formel, l'autre informel, le Danemark et la Suède, et tous les autres pays qui ont dit qu'ils allaient rentrer dedans. Moi, je crois que les pays membres de la zone euro, alors peut-être que je suis une douce rêveuse, mais c'est pas totalement interdit en politique, les pays membres de la zone euro doivent profiter de la négociation avec les Britanniques pour clarifier les choses avec tout le monde.
Oui.
Les pays membres de l'Union européenne qui ont adhéré, en acceptant
l'objectif
de rentrer dans la zone euro, on doit le clarifier avec eux en leur disant: vous voulez surveiller ce qu'on fait dans la zone euro? Vous considérez que vous avez vocation à y rentrer? Eh bien, alors, on vous dit, maintenant, vous devez planifier quand est-ce que vous...
Oui, on a intérêt à mettre sur la table comme ça.
Mais
parce que la dernière fois qu'on avait mis tout sur la table, c'était au moment des discussions pour le traité constitutionnel. Et puis, on avait introduit, pour faire plaisir à certains, on avait retiré le côté irréversible d'une adhésion, à l'Union européenne.
On avait introduit l'article 50 à la demande des représentants britanniques dans la Convention.
Absolument. Donc, imaginons qu'en remettant les choses à plat, on ajoute un caractère... qu'on puisse sortir de la zone euro.
Ben on clarifiera les choses.
Il
y a un moment ou un autre, il faut renouveler les vœux. Et surtout, en ce moment, on a besoin de le faire. Et dire, c'est très intéressant ce qui s'est passé avec le Brexit. Contrairement à ce qu'on avait annoncé, parce que tout le monde, il y a un certain nombre de gens qui expliquaient, le Brexit, ça va entraîner d'autres pays qui vont dire tout de suite, on va organiser nous-mêmes un référendum et on va partir. C'est exactement l'inverse qui s'est passé. Les opinions publiques ont rebasculé, au contraire, sont devenues plus pro-européennes.
Oulala, ça devient sérieux,
et,
là.
Voilà. Et notamment, les pays du groupe de Visegrad, qui sont plutôt eurosceptiques, on va dire, qui d'un seul coup deviennent, de joyeux européens.
Donc, les quatre pays de Visegrad, c'est la Pologne, la République tchèque,
la Hongrie et la Slovaquie. Qui brutalement sont très intéressés par les questions de défense européenne. Parce qu'ils se rendent compte que, d'abord, les Américains sont en train de se retirer, et que ce soit Hillary Clinton ou Trump, le retrait va continuer de toute façon, d'une façon ou d'une autre. Et qu'il y a un risque, effectivement, que s'ils quittent l'Union européenne, eh bien, ils se retrouvent tout seuls face aux Russes qui sont de nouveau agressifs. Et donc là, les choses se sont calmées. Donc, clarifier les vœux, c'est intéressant. C'est de leur dire, mais écoutez, vous choisissez, vous le dites clairement, vous voulez être dedans ou dehors. Mais vous continuez pas à ce jeu
d'entre eux. Et zone euro. Si c'est sur l'euro, c'est quand même beaucoup plus complexe. Parce que le message que vous envoyez, c'est que vous pouvez sortir de la zone euro. Et donc là, vous courez aussi le risque,
ce
qu'il y avait avec le Portugal.
Oui, c'est pas possible.
C'est pas possible.
Mais aujourd'hui, c'est pas possible.
Mais je parle de ceux qui sont en dehors, moi.
En tout cas, de sortir, c'est pas possible. Et de commencer à vouloir mettre tout le monde dehors.
Mais qu'on reconnaisse clairement le droit d'opt-out, c'est-à-dire donc le droit de ne pas rentrer. Parce que dans le traité aujourd'hui, tout le monde a vocation à rentrer. C'est-à-dire les Suédois,
ils n'ont pas négocié de dérogation, l'ont violé, mais les Polonais, par exemple, n'ont pas demandé de dérogation quand ils ont adhéré à l'Union européenne.
Mais c'est pour ça
que je demande, moi, la clarification.
Oui, c'est ça.
Out is out, in is in. Dedans, c'est dedans, dehors, c'est dehors.
D'accord. Mais après, moi, je suis pas entièrement d'accord avec l'analyse de Jean Quatremer sur le fait que les Visegrad soient devenus de bons petits Européens. C'est, ils ont toujours été pro-européens parce qu'ils savent en partie que leur économie en dépend, ils ont besoin des fonds structurels, et le Brexit a juste changé une chose, c'est que ils veulent réformer l'Europe. C'est-à-dire que chez ces pays-là, on a la Pologne, effectivement, la Hongrie et la République tchèque qui ne sont pas dans l'euro, et eux, ils disent, nous, on veut garder l'Europe parce qu'on a besoin de la défense, mais l'euro, on verra. Par contre, on veut la défense. Donc c'est encore autre chose, c'est qu'ils ont une autre définition maintenant de ce que doit être l'Union européenne, et c'est ça qu'il faut mettre effectivement en parallèle. Et la question de la Slovaquie qui elle a l'euro, mais qui veut moins d'intégration, qui veut rapatrier des compétences à Bratislava, etc., est un peu particulière. Donc est-ce qu'effectivement on pourrait pas se dire, on fait sortir un pays ou deux parce qu'eux ne veulent pas aller plus loin, ou ne veulent plus aller plus loin? Ou est-ce que bon, on garde les 19 et on avance? Mais c'est pas le côté uni n'est pas si clair que ça. On n'est pas d'accord sur ce qu'on veut faire. On veut rester ensemble, mais chacun a comme un projet assez différent.
Charles, je vous ai vu hocher de la tête.
Oui, est-ce que la priorité c'est de consolider pour les 19? S'il y a de nouveau vraiment une énorme crise.
Est-ce que la Finlande veut vraiment aller plus loin? Quand on regarde le gouvernement finlandais, on a un parti d'extrême droite, droite populiste, qui dit clairement qu'il veut aller plus loin.
Les vrais Finlandais. Mais parce qu'aussi. En Finlande, comme ailleurs, y compris dans mon pays, ce que ça veut dire d'appartenir à la zone euro, on ne l'a pas clarifié. Et c'est toute l'ambiguïté qu'on a laissé se développer jusqu'à présent, où l'euro, en fait, était une espèce de supplément d'âme par rapport au marché intérieur. Et on a laissé cette ambiguïté puisqu'on était obligé à cause des Britanniques. Maintenant, les Britanniques sont sortis avec leur idéal de marché intérieur. En France, personne ne va se mobiliser sur un marché intérieur. Personne ne pense que le marché intérieur, c'est l'avenir radieux pour les Européens. Or, l'attachement à l'euro, lui, il est constitué, il est là. Donc il faut, quand je dis clarifier les choses, c'est dire, bon, le marché intérieur, c'était pour les Britanniques, ils s'en vont. Maintenant, la question, le ciment européen, c'est l'euro. Et l'euro, c'est forcément un budget, c'est forcément une représentation démocratique, c'est forcément une union politique.
L'euro qui, d'un point de vue populaire, on va terminer là-dessus, était vraiment victime de tous les maux, c'est l'inflation pour beaucoup de gens. Là, si l'assurance chômage dépendait de ce budget de la zone euro, vous pensez que ce serait un coup de boost pour la popularité du projet européen et de la monnaie unique?
Mais en tout cas, moi j'ai vu chez des jeunes militants, la première fois que je leur ai exposé cette idée, ils étaient enthousiastes. D'accord. Et ils m'ont dit, mais c'est ça, on a besoin d'une protection sociale européenne. Mmh. C'est dire si les esprits sont... Quand on illustre bien le défi commun...
Vous imaginez, vous recevez votre indemnité chômage et il y a la partie financée par la zone euro. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, vos liens avec l'Europe, c'est uniquement les billets en euros. Mais pour le reste...
Non, les fonds structurels...
Le problème, c'est qu'ensuite, il faudra pointer à Pôle emploi à Francfort. Ça ne va pas être simple. Déjà, c'est pas toujours simple. Déjà, en France, quand on va voir son conseiller Pôle emploi, quand vous allez voir Gunther à Pôle emploi, à Pôle Arbeit, ça va pas être simple.
Ça va pas être...
Jean, Charles, Jean-Sébastien, vous restez avec nous. On va être rejoint par Maya Delabaume pour ses coulisses de l'Europe. Elle va nous parler de la campagne présidentielle au Parlement européen. Sera également rejoint par Éric Scholl de Courrier International. Merci beaucoup. Pervenche Pérez, chef de file des eurodéputés socialistes français et auteur du rapport sur le budget propre de la zone euro au Parlement européen. Merci d'avoir été avec nous.
Merci,
à tout de suite après une courte pause.
BFM Business, 500 millions d'Européens, l'émission qui va voir ailleurs. BFM Business, 500 millions d'Européens, avec Euranet Plus. Yann-Anthony Noguès.
Oui, merci de nous retrouver ici à Bruxelles au Parlement européen pour cette deuxième demi-heure de 500 millions d'Européens, toujours avec nos complices Charles de Marcy de la Fondation, Robert Schuman, Jean-Sébastien Lefebvre de Contexte, Jean Quatremer de Libération. Non, je ne vais pas faire ma blague correspondant de Minute, ma blague habituelle. Pourquoi vous pourriez travailler pour Minute éventuellement? C'est vous qui avez dit à 200 mètres de la Grand Place de Bruxelles, on est en Arabie Saoudite.
Je ne répondrai pas à ces provocations.
Et nous a rejoint sur le plateau Maya Delabaume. Bonjour. De Politico. De quoi allez-vous nous parler, Maya?
De l'élection du président du Parlement européen. Le 17 janvier.
Le 17 janvier.
Qui s'annonce comme une bataille politique
Mais attendez, les élections européennes, c'était il y a deux ans.
Oui, mais alors le Parlement, après deux ans et demi, se renouvelle. C'est-à-dire qu'on va réélire le président et puis on va réélire aussi les postes importants au Parlement.
Donc a priori, ce sera parce qu'il y avait un accord entre les socialistes et le centre-droit, les conservateurs. Ça devait être un socialiste, donc Martin Schulz, pour la première partie du mandat, deux ans et demi, et puis ensuite un PPE. C'est ça qui va se passer?
Absolument. Ça devrait être un PPE maintenant.
Ou bien Martin Schulz aimerait peut-être rester.
Et il s'accroche.
Martin Schulz qui sera notre invité dans 500 millions d'Européens la semaine prochaine. Et après vos coulisses, Maya de la Baume, nous serons rejoints par le pétillant Éric Scholl de Courrier International, qui a lu cette semaine les quotidiens espagnols, croates, grand-bretons et italiens. Demandez le programme de 500 millions d'Européens pour réagir sur Twitter, hashtag 500ME.
BFM Business, avec 500 millions d'Européens, pénétrez dans les coulisses de l'Europe.
Oui, nous vous proposons à présent de pénétrer dans les coulisses de l'Europe avec Maya de la Baume. C'est la première fois, Maya, qu'il y a une vraie campagne politique au Parlement européen avec une primaire pour le PPE, pour le poste de président du Parlement européen. Le PPE, c'est le Parti populaire européen.
C'est quoi, c'est droite ou de gauche? Je m'y perds.
C'est centre-droit, plutôt à droite.
Centre-droit. Oui. En fait, en 2014, l'élection était très prévisible, puisqu'il y avait toute une coalition qui s'était déjà faite sur Martin Schulz. Alors, il y a eu une campagne politique aussi, mais on savait que c'est Schulz qui serait le président du Parlement européen. Cette année, il y a beaucoup plus d'incertitudes, il y a plus de suspense, donc ça rend cette élection plus intéressante, plus politique, parce que vous avez ce deal dont vous parliez, qui a été signé entre la droite et la gauche au Parlement européen. Et donc, normalement, on devrait avoir un président de droite.
En juin
2014, absolument. Ouais. Et la droite, donc le PPE au Parlement européen, veut que ce deal soit respecté, alors que la gauche, les sociodémocrates, eux, veulent plutôt que Martin Schulz continue un troisième mandat.
L'allemand.
Donc voilà, il y a un peu il y a une sorte de confrontation.
C'est la première fois qu'un président fait cinq ans. Parce qu'il a fait la deuxième partie de la précédente législature, donc 2012-2014. Ouais. Il a réussi donc à être prolongé de 2014 à 2016. Et il continuerait bien jusqu'en 2018, le petit gourmand.
Sachant 2019. Que lui briguait la présidence de la Commission européenne. Finalement, c'était Jean-Claude Juncker. Il faisait partie des fameux Spitzenkandidaten.
Yeah.
Et finalement,
vice-président.
Ouais, c'est bien. Stop.
Voilà. J'ai pas y continuer. Charles de Marcy.
Il n'est pas le seul à décider. Parce qu'on ne peut pas avoir trois PPE, pas de la droite, trois de la droite européenne. Il y a la présence de la Commission, du Conseil et du Parlement. Donc c'est pas un jeu à somme nulle. Donc si on remet un PPE à la tête du Parlement, est-ce qu'un des deux autres doit laisser son fauteuil, soit le Polonais Donald Tusk au Conseil, soit Jean-Claude Juncker à la Commission? Et donc ça rentre aussi dans cette architecture un peu globale.
Il y a Karl von Marseille et Johann Sebastian Lefebvre.
Moi, je suis pas entièrement d'accord.
Von Lefebvre.
Avec ce que dit Charles, parce que ce que on entend aussi en coulisses, c'est que certains disent Martin Schulz s'est battu pour avoir un parlement politique. Il l'a. Donc maintenant, qu'ils viennent pas dire qu'il faut aussi un équilibre entre les institutions en fonction de la couleur politique. Le Parlement européen doit avoir sa propre logique politique. Et sa logique politique, c'est qu'il y a une coalition gauche-droite. Donc ça peut pas être que Martin Schulz qui garde le poste sous prétexte qu'autour il y a beaucoup de gens de droite, c'est aussi au sein de l'institution le partage des pouvoirs. Mais après, ce qui peut compliquer encore la donne pour la discussion, c'est que si Martin Schulz n'est plus là un petit peu pour tenir les socialistes quand il faut voter un texte dans la grande coalition avec le PPE, et qu'à la place on a un président PPE, est-ce que les socialistes, les frondeurs on va dire du Parlement européen, seraient pas tentés de plus voter les textes avec la Grande Coalition et de rendre le Parlement encore plus ingouvernable qu'il l'est déjà.
C'est là où je pense l'élection est peut-être un peu plus intéressante que d'habitude, c'est qu'on vous explique aussi beaucoup que c'est la Grande Coalition est vraiment en danger cette année. C'est-à-dire qu'on est beaucoup moins, on est sur une confrontation plus grande que juste cette espèce d'alliance permanente qui ennuie.
Qui est en face, pardon, juste pour la précision, du côté PPE, on a qui en face? Parce qu'on se souvient qu'Elisabeth Morin-Chartier, notre élue du Poitou, elle était visiblement très intéressée par le poste. A priori, elle est candidate.
Moi, je ne pense pas, mais il y a quatre. Enfin, je ne sais pas, parce que je ne sais pas quels sont ses plans, mais on parle de la Massour, on parle de. un Slovène, ancien Premier ministre slovène qui s'appelle Aloj Peterle. On parle de Mairead McGuinness qui est une femme
irlandaise,
ancienne journaliste d'ailleurs, irlandaise. Et on parle du, de, aussi de, pardon, d'un coup,
d'italien, plus,
de l'italien Antonio,
Antonio Tajani.
Lui, a priori, n'a pas tellement de chance de l'avoir.
Parce qu'en plus, il a des problèmes, effectivement, dans l'affaire du Dieselgate.
Il a des problèmes. Et puis, c'est aussi un ancien porte-parole de Berlusconi, qui, en fait, dans le fond,
voilà.
Ça ne veut rien dire, mais bref, parce quand
que
même.
Moi, je suis d'accord. Moi, je suis assez d'accord avec ce que dit quand même Charles Mercy sur l'équilibre entre les institutions, mais aussi ce qui se joue en Allemagne. Parce que si Schulz est dégagé de la présidence du Parlement européen, sa tentation sera forte de revenir dans le jeu allemand. Et je vous signale quand même que dans un an, il y a des élections en Allemagne et que la chancelière n'a pas trop envie de voir revenir quelqu'un qui peut-être pourrait éventuellement lui faire de l'ombre. J'y crois pas trop, mais il paraît que c'est un des éléments qui détermine...
Il n'est pas très connu en Allemagne.
Oui, mais quand même. Moi, tout ce qu'on me dit, c'est que la chancelière préférait le voir rester...
Sachant que c'est un président du Parlement qui dit des choses.
Il dit des choses, en plus.
Et en français, en plus.
Mais alors, ce qui est intéressant, c'est que Schulz...
Je suis en train de faire de la promo pour l'émission de la semaine prochaine.
Voilà, mais Schulz, en plus... Cela étant, est un garçon extrêmement prudent parce qu'il a commencé à placer l'ensemble de ses hommes à tous les échelons du Parlement européen. Donc il y a un recasage absolument incroyable.
Et c'est la
même chose. Voilà. Si on faisait la même chose à la Commission européenne, je ne vous dis pas ce qu'elle crierait politiquement.
Vous lui direz ça la semaine prochaine.
Mais en revanche, oui, je lui dirai en face parce que là, aujourd'hui, en plus, ce sont des Allemands et des Allemands socialistes qui sont placés partout. Secrétariat général adjoint. Il y a des gens qui sont mis dans des postes qu'ils ne devraient pas occuper en fonction, vu leur CV, etc. Et en interne, il y a des tensions de plus en plus grandes. Donc Schulz, sentant qu'ils peuvent être en train de dégager, en tous les cas, il n'a pas oublié ses
petits camarades. Donc a priori, il a le soutien d'Angela Merkel qui préfère le voir rester ici plutôt que de revenir en Allemagne, même si ce n'est pas une star là-bas, mais il pourrait avoir une certaine capacité de nuisance visiblement dans la campagne.
Et de regrouper Maya, des socialistes.
Mais du côté de François Hollande, Matteo Renzi...
Oui, alors là, il n'est pas sûr d'avoir un soutien. A priori, Hollande serait très content d'avoir aussi Lamassoure, citoyen français, à la tête du Parlement européen. C'est pas encore... Le soutien n'est pas absolument clair et officiel, mais...
Parce que ça rentre aussi en ligne de compte.
Ça rentre en ligne de compte.
Ça reste toujours un Allemand, un poids important.
Il y a beaucoup d'Allemands.
Qui est une alternative et pas illogique non plus sur la nationalité.
Dans les institutions aujourd'hui, il faut voir le poids de l'Allemagne est absolument démesuré au regard de son poids à l'intérieur de l'Union européenne. Il y a un malaise quand même aujourd'hui.
Mais en même temps, le fond du problème, c'est que Schulz, ça fait 5 ans qu'il est là. Et au fond, on remarque aussi qu'il n'y a personne d'autre vraiment pour prendre le leadership à sa place. Ça veut dire que... D'accord, il a sûrement fait le ménage, il a évité peut-être à certains d'émerger dans son groupe, mais en face, le PPE finalement n'a pas de grande figure à apporter. Les Verts ont personne.
Moi, j'ai une idée pour prendre le leadership.
Bon, Charpie.
Non, on va l'avoir tout de suite.
Yann Antonio Noguès.
Vous allez voir, la revue de presse européenne.
BFM Business, 500 millions d'Européens, la revue de presse.
Là, on tient un leader. Bonjour, Éric Scholl.
Bonjour, Yann Antonio.
Le grand leader de Courrier International. Vous allez bien?
Excellemment. Bon. Je vais vous parler d'asperges.
Ah bon, d'accord.
Ouais. Asperges pour président du Parlement, c'est
et
ça?
C'est vrai qu'à Strasbourg, où il y a la soirée des asperges chaque année.
C'était passé, hein. Les asperges, c'est pas la saison, là.
Non, mais c'est pas la saison, mais chaque année, il y a la soirée.
Comment que l'émission soit diffusée dans un an?
De l'asperge, Espagne, Croatie, Grande-Bretagne, football, on va parler de tout ça avec vous. On commence par l'Espagne, avec cette Europe qui fonctionne, selon les Espagnols.
Oui, un article paru dans El País et qui fait du bien parce qu'en fait c'est un article qui dit au moment où l'Union européenne semble se fracturer de tous les côtés, eh bien le magazine espagnol prend le contre-pied de ce sentiment et il a publié un reportage sur tout ce que l'Europe apporte. Alors moi j'ai décidé de vous parler des asperges et notamment des asperges de Pedro Sierro. C'est un cultivateur, c'est même plutôt un grand patron parce qu'il est à la tête d'une coopérative qui a été montée en 1995 avec de l'argent qui venait de l'Europe pour cultiver des asperges dans la vallée de la Grenade. Eh bien, cette coopérative aujourd'hui, rendez-vous compte, c'est la plus grande coopérative, c'est la plus grosse production d'asperges de toute l'Europe. Et notre Pedro Sierro, il produit 8000 tonnes, alors pas lui, toute la coopérative, il produit 8000 tonnes d'asperges par an qui sont consommés dans tous les pays de la zone euro, absolument tous. Sa coopérative, elle s'appelle Les Galombares. Eh bien, elle fonctionne d'une façon absolument formidable. Il le doit en partie à l'Europe. Il fournit 80% de sa production à, donc à l'ensemble de l'Union européenne. Et je vous dis juste la fin de l'article. Il explique qu'il est 22h44. Tandis que les étudiants Erasmus sont dans les bars à manger des tapas, 17 tonnes partent pour l'Allemagne en 30 heures. Moyennant un seul changement de conducteur, elles arrivent à destination sans s'arrêter à une seule frontière. Voilà, ça c'est l'Europe qui fonctionne.
Voilà l'Europe qui fonctionne et Eric Scholz qui va se retrouver avec 12 cajots d'asperges chez lui. Pedro est très content que vous ayez fait l'article pour lui. Jean-Sébastien Lefebvre.
Ce qui est intéressant avec l'Espagne, c'est malgré la crise, malgré l'austérité que l'Espagne a connue, les élections, bon, ils n'ont pas de gouvernement depuis décembre dernier, c'est un problème, mais il n'y a aucun...
On est
en Belgique.
Les Belges, 500 jours, ça va.
Mais c'est qu'il n'y a pas eu d'émergence de courant ou de mouvement ou de parti politique eurosceptique. Ouais. Podemos a montré qu'ils veulent rester dans l'Union européenne, ils veulent la changer, ils veulent vraiment refaire les choses de fond en comble, mais ils veulent rester dedans. Et à droite, le PP n'a pas de rival sur sa droite, il n'y a pas d'AFD ou de FN. Donc du coup, les Espagnols, effectivement, avec les Portugais, même schéma, restent profondément pro-européens et croient en l'intégration, malgré toutes les difficultés et tous les problèmes qu'on connaît aujourd'hui.
Et d'ailleurs, on voit bien que dans les sondages, même par exemple, pendant la crise, au plus fort de la crise en Espagne, l'attachement à l'euro a diminué, mais sans passer sous les 50%. Et aujourd'hui, ça réatteint de nouveau l'attachement à l'euro, les niveaux atteints avant la crise. Donc on voit bien, effectivement, que l'euroscepticisme ne prend pas, pour l'instant, dans le sud de l'Europe. Mais c'est la même chose en Grèce, hein, je vous signale.
Voilà, si vous voulez donc avoir un pays avec des partis traditionnels qui restent en place, manger des asperges. En Croatie, Eric l'élargissement, le casse-tête des Balkans.
Oui, c'est le quotidien de croate de Jutarnji List qui nous raconte qu'effectivement, eh bien, si vous voulez, en fait, le Brexit oblige l'Europe à repenser son processus d'élargissement, puisqu'aujourd'hui, on est plutôt dans un processus de rétrécissement, nous explique le journal. Et ça, c'est assez ennuyeux, notamment du côté des Balkans. Pourquoi ? Parce que, eh bien, ce processus de rétrécissement fait que il n'y a plus de vision, il n'y a plus aussi cette capacité à créer du soft power dans cette région. Le journal nous explique bien que Bruxelles est conscient que l'élargissement a apporté à l'Europe une longue période de paix. Il ne faut pas l'appréhender uniquement en termes économiques et financiers. Et donc la perte d'intérêt pour l'élargissement risque d'affecter ce soft power européen qui facilite la stabilité de la Macédoine, du Kosovo, de la Bosnie-Herzégovine. Et autre risque, eh bien, c'est que de voir d'autres puissances comme la Russie ou la Turquie qui seraient en train de s'implanter en termes d'influence dans les Balkans. Il est temps peut-être de redonner de la vision et donc peut-être des perspectives d'élargissement.
Il est temps de redonner de la vision. Jean Quatremer qui, pendant votre revue de presse, là me disait, mais là, fait parler Jean-Sébastien là-dessus. Et pour montrer que c'est quand même moi le chef autour de la table, Charles de Marseille.
Oui, il faut redonner une vision. L'élargissement était une fin en soi et on s'aperçoit que c'est plus suffisant. Et donc il faut donner un message à ces pays, mais aussi aux opinions publiques nationales qui sont déjà membres du club, pour savoir finalement où va et quelles sont ses limites du projet européen. Et ça passe évidemment par l'élargissement, mais un peu finalement contrôlé, en tout cas expliqué.
Ça m'intéresserait d'avoir l'avis de Jean-Sébastien Lefebvre.
Effectivement, l'élargissement peut donner un but à ces pays-là, mais on a aussi un problème, c'est que dans ces pays-là, il y a encore besoin d'énormément de réformes. Ce qui reste à intégrer, on parle de la Bosnie, la Serbie, le Kosovo, Monténégro, Macédoine, c'est extrêmement compliqué. Macédoine, on a une dérive autoritaire. L'Albanie aussi, mais bon, l'Albanie, on part de très très loin. La Bosnie, on se rend compte que c'est un État qui ne fonctionne pas depuis les accords de Dayton. Les Serbes là, viennent de faire un référendum sur leur fête nationale qui veut plus ou moins dire que certains aimeraient partir. La Serbie, comment l'intégrer tant qu'on ne sait pas quelle frontière, puisqu'il y a certains pays qui ne reconnaissent pas l'indépendance du Kosovo. Donc, on peut leur donner ça comme perspective, mais il y a déjà tellement de choses à faire en interne que dire en 2025 vous serez là, non, c'est pas possible.
On parlait des asperges tout à l'heure, maintenant on va parler de la PAC, direction la Grande-Bretagne, où on parle d'en finir avec la PAC.
Oui, c'est presque un marronnier, c'est presque étonnant de voir cet article dans le journal iNews. Mais effectivement, c'est une charge très lourde et j'avais envie de vous en reparler un petit peu contre la PAC. Charge très lourde dans ce journal britannique. Bon, ils ont voté le Brexit, mais c'est pas grave, on continue, on en remet une couche contre l'Europe. Et donc c'est très violent hein, sur évidemment ce que coûte la PAC. Alors je vous cite, l'agriculture représente une part ahurissante, 40% du budget européen, alors que ce secteur ne génère que 2% du produit intérieur brut et n'emploie que 3% de la population. Évidemment, qu'est-ce qui est visé à votre avis? Eh bien aujourd'hui le système n'existe presque que pour le bénéfice de ces râleurs d'agriculteurs français, nous dit le journal britannique. Et vient une très longue analyse et explication très anti-PAC en nous expliquant qu'il est vraiment temps de se débarrasser de ces systèmes totalement inefficaces.
Ça me rappelle toujours ça, Eric, une fois j'avais fait un reportage avec Nigel Farage, l'ancien leader du UKIP, et on était dans la campagne française et on était ensemble, on discutait, et lui il montrait les paysages français, il disait ah ils sont tellement beaux, on les aime tellement, et nous les Anglais on raffole des paysages et de la campagne française, surtout quand on se dit que c'est nous qui payons pour ça. Jean-Sébastien Lefebvre.
Ce qu'il faut nuancer dans le propos du journal britannique, c'est que je ne sais plus quel ministre en charge du Brexit, parce qu'ils en ont trois, a dit pour rassurer les agriculteurs que de toute façon, qu'ils sortent ou qu'ils sortent pas, ils garantissent les versements aux agriculteurs jusqu'en moins 2020.
Jusqu'en 2020, oui.
Voilà, donc ils peuvent critiquer effectivement la PAC, sauf qu'ils se rendent compte, en réalité, que s'ils coupent, ils vont avoir un souci pour les agriculteurs quand même.
Voilà, Eric Scholl, vous avez décidément pris le leadership annoncé, ça ne m'étonne pas de vous. Merci beaucoup pour votre revue de presse, merci Maya de la Baume pour vos coulisses de l'Europe, merci Jean Quatremer pour vos coulisses de Bruxelles, merci Jean-Sébastien pour votre contextualisation, votre recontextualisation, parce que vous êtes le correspondant de Contexte ici à Bruxelles, et merci Charles de Marcy. Alors je cherche la Fondation Robert Schuman, et merci à Robert Schuman pour l'ensemble de son œuvre que vous perpétuez.
Je le transmettrai.
Vous lui transmettrez. Merci à Alexandre Rougier également pour son œuvre, toujours très active, le producteur de cette émission. Merci aux équipes du Parlement européen, à Hugues, à Christophe, à Olivier, à Manu, à Pascal. Merci à vous de mettre en son, en image. À Elodie aussi, tiens, sinon je ne me serais pas bien maquillée la prochaine fois. Merci d'avoir mis en son et en image cette émission. On se retrouve la semaine prochaine pour un nouveau numéro de 500 millions d'Européens, toujours à même heure. Mais d'ici là, bonne fin de week-end à tous à l'écoute de BFM Business.
BFM Business, 500 millions d'Européens, l'émission qui va voir ailleurs.